Et j'ai donné comme titre à cette méditation, Attention, une malédiction peut cacher une bénédiction. Ou des provisions, même dans des temps de détresse, si vous voulez. Et si on donne un petit coup d'œil à la fin du livre de Ruth, il devient clair que le sujet de tout ce livre, c'est la postérité que Dieu va donner à Naomi. Par exemple, si vous regardez Ruth 4, verset 16, donc tout à la fin du livre, dit que Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Et les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Verset 18, voici la postérité de Péreï. Et la lignée vous est donnée jusque, regardez le dernier mot du livre, jusqu'à David. Mais pour bien comprendre le livre, il faut donc garder ça en tête, que le thème, c'est la bénédiction de l'Éternel sur une postérité. C'est la postérité et la bénédiction qui est recherchée. Alors revenons maintenant au chapitre 1. Et regardez le premier verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alors, quand on arrive au verset 5, le mari est déjà mort. Et le verset 5 nous dit que ses deux fils meurent aussi. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Et puis, à la fin du chapitre 1, elle est de retour maintenant en Bethléem, d'où elle avait quitté au début du chapitre. Mais notez ce qu'elle dit au verset 20, Ruth 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Alors, elle dit bien que j'étais dans l'abondance à mon départ. Mais nous savons qu'ils sont partis à cause d'une famine. Donc, elle ne parle pas de ses provisions, elle parle certainement de sa famille, de sa postérité, si vous voulez, de son mari, mais aussi de ses fils. À la quête de prospérité, elle avait perdu les trois hommes les plus chers dans sa vie. Et il semble, quand on lit qu'à Bethléem, il n'y a pas eu de grand désastre, parce qu'elle va retrouver les mêmes personnes qui était quand elle est partie. Donc Dieu les a préservés là à Bethléem. Mais voici ma question. A-t-elle raison de dire, l'Éternel me ramène les mains vides? C'est ce qu'elle dit. L'Éternel me ramène les mains vides. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'elle a raison de dire ça? Regardez le verset 11 du premier chapitre. Naomi dit, donc à ses belles-filles, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance et que même cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alors, quand Naomi décide de quitter Moab pour retourner à Bethléem, elle a deux convictions très profondes. La première, c'est qu'elle ne peut rien faire pour donner une postérité à ses belles-filles. Elle ne peut pas les aider. Elle ne peut rien faire pour ses belles-filles. Et la deuxième conviction qu'elle a, c'est que ses belles-filles ne peuvent rien faire pour lui donner une postérité. Elle est donc dans une situation sans espoir. Et Naomi, ici au verset 11, elle fait référence à la coutume de ce qu'on appelait la coutume de Lévira. Quand un homme mourait sans enfant, son frère ou le parent plus proche prenait la femme et devait se marier avec la veuve pour donner des enfants aux morts. Et Naomi leur dit que dans leur cas, il n'y a pas d'espoir. Même cette coutume, si vous voulez, ne leur sera d'aucune utilité. Naomi est convaincue que ces belles filles n'ont aucune chance d'avoir des maris en Israël, et donc qu'elle-même n'a aucun espoir d'avoir une postérité à travers ces belles filles. Et en leur disant de retourner à leur pays et à leur Dieu, elles se privent elles-mêmes de tout espoir d'avoir une lignée. C'est un peu comme un suicide qu'elle fait ici. Étant convaincue qu'il n'y a aucun espoir pour l'avenir, elle lève la main, si vous voulez, pour porter le coup de grâce à sa lignée. Et une chose est certaine, si Ruth et sa sœur Orpa, voilà, si Ruth et Orpa retournent toutes les deux à Moab, Naomi n'a plus vraiment aucun espoir d'avoir une postérité. Elle restera toujours stérile dans ce sens. La terre de son mari sera certainement donnée à un autre. Elle n'aura pas de lignée. Ce sera la fin pour elle. Elle va mourir dans la solitude. Mais Naomi, vous voyez, ici, est tellement sans espoir qu'elle est prête à abandonner les derniers membres de la famille qu'elle a toujours. Elle est tellement préoccupée par son malheur qu'elle ne voit pas les deux bénédictions que Dieu a déjà mis en place pour lui donner une postérité. Alors, quelles sont ces deux bénédictions qui sont déjà là, même si elle ne les voit pas? Ben, la première chose, nous voyons que Dieu est déjà à l'œuvre au loin. Regardez le premier verset du deuxième chapitre. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, donc son mari, et qui se nommait Boaz. Et remarquez plus tard, au verset 20, chapitre 2, verset 20, regardez ce qui frappe Naomi soudainement. Naomi, c'est Ruth de 20, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Vous voyez, quelque temps auparavant, dans le pays de Moab, elle avait dit à ses belles-filles que le rachat était impossible. Elle était trop vieille pour avoir des enfants. Et elle avait complètement zappé le fait que Dieu avait déjà mis Boaz en place. Il était déjà riche, donc capable de racheter ses terres. Il était célibataire, donc dans une bonne situation familiale. Et il était gentil, on voit déjà, et il craignait Dieu. Mais dans son malheur, Naomi était prête à renvoyer ses belles-filles en disant « c'est trop tard ». C'est trop tard. Je ne peux rien faire pour vous. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Il vaut mieux qu'on se sépare. Vous voyez, il faut faire attention. Parfois, des malheurs nous cachent des bénédictions. Parfois, nous ne voyons pas la bénédiction à cause du malheur. Mais quelle était l'autre bénédiction? On voit que Dieu travaillait déjà au loin dans la vie de Boaz à Bethléem. Mais nous voyons deuxièmement que Dieu travaillait déjà tout près d'elle. Il était à l'œuvre tout près. Regardez chapitre 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Elle lui dit de retourner. Alors, comparez cela au chapitre 4, verset 15. Est-ce que vous pouvez tourner la page? Donc, on va comparer 1.15 à 4.15. Ruth 4.15. C'est les femmes qui parlent. Elle dit, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Elle, Naomi, a tenté de renvoyer celle qui l'aimait, selon ce verset, celle qui était mieux que sept fils, et celle qui allait lui donner une postérité qu'elle désirait si ardemment. Alors, je suis sûr que Naomi n'a pas tenté de renvoyer Ruth par manque d'amour pour elle. Mais c'était à cause de son désespoir et à cause de son manque de foi. Mais nous voyons que la grâce de Dieu est tellement bonne et tellement souveraine que Dieu ne permet pas à Naomi de gâcher sa vie, de gâcher son propre futur. On voit la bonté de Dieu qui la garde. Si vous revenez au chapitre 1, regardez le verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon peuple et ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort ne vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles furent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Voyez, malgré Naomi, Dieu la garde et la protège pour lui faire du bien. Mais regardez le verset juste après, verset 20. C'est le verset juste après cela que Naomi dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Mais nous savons, de notre point de vue, hein, parce que nous avons lu jusqu'au chapitre 4, nous savons que cette femme pleine d'amertume était déjà richement bénie par Dieu. Dieu avait déjà préparé Boaz, sa situation familiale, ses richesses, sa crainte de Dieu. Dieu avait déjà préparé Ruth, son amour pour Naomi, sa foi dans le Dieu d'Israël, son refus de quitter sa belle-mère. Donc, je vous repose la même question. Est-ce qu'elle avait raison de dire « L'Éternel me ramène les mains vides » ? Et je crois que nous voyons que la réponse est non. Elle avait eu déjà une grande bénédiction à côté d'elle. Et parfois, quand le malheur nous frappe, nous perdons de vue les bénédictions que Dieu nous donne. Même parfois quand ces bénédictions sont tout près de nous. Et donc je termine avec deux questions d'application ce soir. Et la première, c'est celle-ci. Y a-t-il des bénédictions divines qui sont cachées derrière des malheurs? Est-ce qu'il y a dans votre vie peut-être des bénédictions cachées derrière des malheurs? Est-ce que vous, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous ne voyez que le malheur? Et la tristesse de votre cœur vous empêche de voir les bénédictions qui sont cachées derrière ces malheurs. Et bien sûr, Naomi ne pouvait pas voir cela avec l'œil nu à la fin de chapitre 1. Il fallait l'accepter par la foi. Et c'est aussi la même pour nous. Il faut parfois accepter ces choses par la foi. Et puis ma deuxième question. Dans notre malheur, sommes-nous tentés à abandonner trop tôt? Est-ce qu'il y a la tentation d'abandonner trop tôt à cause du malheur que nous ressentons? Un peu comme Naomi était prête à faire. Elle dit, mais retournez, ça ne sert à rien de venir avec moi, je ne peux rien faire pour vous, vous ne pouvez rien faire pour moi, retournez vers vos dieux. Avons-nous parfois cette même tentation? On lâche tout, on abandonne parce qu'on ne voit pas d'avenir. Est-ce que nous regardons notre situation actuelle et sur cette base, nous nous projetons dans l'avenir et on se dit, ben, il est clair qu'il n'y a plus de bénédiction à venir pour ma famille. Donc, il faut pourquoi pas abandonner sur le coup. Et peut-être, vous n'avez qu'une Ruth et une Orpa et vous ne voyez aucun espoir que quelque chose de bien leur arrive à cause de vous. C'était certainement la conviction de Naomi. Est-ce que cela signifie qu'il faut les renvoyer? Que vous devez présumer que les choses resteront toujours comme elles sont maintenant? Un mariage en difficulté n'est jamais sans espoir. Un fils prodigue vivant au loin n'est jamais sans espoir. Une relation tendue n'est jamais sans espoir. Une maladie n'est jamais sans espoir. Et peut-être vous êtes comme Naomi à la fin de chapitre 1. Mais est-ce que vous pouvez relire le chapitre 1 de votre vie, sachant qu'il va suivre un chapitre 2, un chapitre 3, un chapitre 4? Et pour nous qui sommes en Christ, nous savons que le chapitre 4 est céleste. Donc déjà, nous savons que la fin de l'histoire sera bonne. Donc, ne laissez pas le malheur vous pousser à abandonner trop tôt. Vous ne savez pas quelle bénédiction Dieu a maintenant, déjà, prête pour vous, cachée derrière ces jours de tristesse. Et donc, je vous laisse avec ce verset, Romains 8, 18, où l'apôtre Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Prions ensemble. Ô Dieu, nous te louons pour ta bonté envers cette dame, Naomi, que tu l'as aimée, nous le voyons, que tu avais de bonnes choses pour elle. Et nous voyons la grande joie qu'elle a eue à la fin de ce récit. Mais nous pouvons aussi comprendre l'amertume du cœur qu'elle ressentait au début, car nous avons nous-mêmes été tentés d'avoir ces mêmes sentiments. Donne-nous, te prions, la foi de toujours croire en toi, de savoir que toutes choses, même les malheurs, concourent pour notre bien et pour ta gloire, et que rien, non rien, Seigneur, ne peut nous séparer de ton amour. À toi la gloire, à toi la victoire, dès maintenant et dans tous les siècles. Amen.